Alléluia. Ah, je ne suis pas un objet d'affection, mais je suis un objet d'affection, n'est-ce pas? Et il y a 39 ans, je me trouvais devant une église anglicane à Finchley, près de Londres. Et j'étais sur un banc. Et d'un côté, j'étais très mal à l'aise. Et il y avait le glas qui commençait à sonner. Boum, boum. Et je dis, est-ce que je vais entrer ou non? Parce que j'avais 23 ans et le Seigneur travaillait mon cœur. J'avais entendu l'Évangile. J'avais trouvé une petite Bible Gédéon. Mais je ne pouvais pas signer mon nom. J'avais lu le témoignage. Je donne mon cœur. Mais je savais que ma vie était remplie des choses qui n'étaient pas dans l'obéissance à Dieu. Et je ne savais pas même si j'avais envie de faire des choses à moitié. Je ne voulais pas vivre un compromis. J'ai dit, mais je ne vais pas dire, je te sers Seigneur si c'est après pour être à moitié. Et donc j'étais là, est-ce que je vais entrer? Et c'est une église traditionnelle, hein, l'église anglicane en Angleterre, je suis entré. C'était vraiment une église hyper traditionnelle. Ils ne savaient pas où il fallait se lever, où il fallait s'asseoir. C'est comme le culte catholique finalement, sauf là où vous priez le pape, nous bénissons la reine. Et donc là, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et à la fin du culte, le pasteur est venu, il m'a dit, ça va? Ça va? Et j'ai dit non. J'ai dit, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je me sens déchiré en deux. Quoi? Oui, déchiré en deux. Il y a une partie de moi qui aspire après Dieu. Mais il y a une autre partie qui ne le veut pas du tout. J'ai dit, c'est comme il y a une guerre civile dans mon cœur. Et il ne savait pas que dire. Parce que normalement, les gens, ils disent, oui, ça va, c'est bien. Et j'étais dans l'angoisse quand même. C'était un moment clé de ma vie. Le 7 mars 1982. Un dimanche, hein, comme aujourd'hui. Et après, il dit, oh, mais après le culte, il faut venir chez moi. Donc, je suis allé chez lui. Il m'a servi une tasse de thé. Il commence à boire mon thé. Il avait sa femme, parce que les prêtres se marient dans l'église anglicane. Et il y avait l'assistante paroissiale et moi. Et on était quatre. Et c'est une salle qui est froide, tu vois. Il n'est pas quand même un gars qui dit, voilà, Jésus. Ils m'ont accueilli un peu juste comme ça. Et après, il dit, voilà, je vais prier pour toi. Mais il n'a pas prié. C'était une sorte de silence. Et après, j'attendais. Et je dis, oh, c'est horrible. Et à un moment donné, il a dit, mais toi, tu pries. Toi. Et peut-être il a dit vous en français, hein, mais you pray, toi prie. Et donc je ne savais pas comment prier, mais j'étais là. Et tout d'un coup, il y avait comme un moment de vérité. Je pense que nos cœurs sont appelés à ces moments de vérité. Il y a des moments de vérité dans la vie. Quelquefois, c'est dans les moments d'angoisse, les moments de crise, quelquefois dans les moments de grand bonheur aussi, hein, mais il y avait un moment de vérité. Je pense que tout le monde peut vivre un moment de vérité. Je pense que c'est le cadeau que Dieu donne à l'homme d'être vrai. Il a créé Adam pour être vrai. C'était l'homme le plus vrai qui a jamais été créé. On est créé pour être vrai. On est créé pour être vrai. On s'éloigne de la vérité, le père des mensonges, diable, Satan, il nous rend faux, on est des faux-jetons au lieu d'être vrais. Et j'avais un moment de vérité. Et je pense que le plus grand cadeau qu'on peut faire, on peut avoir, c'est de prier ce moment de vérité, c'est de trouver cette vérité dans le cœur et de dire quelque chose. Ça peut être pardon, ça peut être merci, ça peut être un tas de choses. Mais moi, dans ce moment de vérité, j'ai dit un mot. Et en anglais, c'était help, help, au secours, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Waouh! Et donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma prière « Aide-moi ». Parce que ce qui s'est passé après, je ne m'attendais à rien. Et tout d'un coup, il y avait une vague d'amour surnaturel qui est venue sur moi. Waouh ! Et après, une autre vague qui était encore plus lourde. Et encore une autre vague. Et j'ai dit « Je vais mourir ». Je pensais que j'allais mourir. Parce que c'était quelque chose, j'avais jamais connu cet environnement. J'avais jamais connu un environnement de sainteté où il y a la présence de Dieu. Et l'homme, il est fait dans ces moments de vérité pour rencontrer Dieu. Mais Dieu était trop grand pour mon petit cœur là, à ce moment-là. Il m'a fait un cadeau, il m'a inondé de sa présence. J'ai reçu le Saint-Esprit dans mon cœur. Et ça m'a complètement bouleversé. Ça m'a complètement changé. C'était un moment surnaturel de ma vie. C'était pas la théorie, c'était pas voilà la théologie, c'était pas voilà Dieu est là mais tu te sens rien. Il était là et je le sentais. Il faisait exploser tout mon être intérieur. Et même il touchait les gens dans la pièce, les gens ils savaient pas ce qui se passait. Oh, mais ils commencent à trembler. Oh, Dieu est venu. Oh, c'est comme Pentecôte. Et j'étais là, j'étais. Oh, j'avais peur à un moment donné parce que je pensais que j'allais mourir. Je pensais que j'allais mourir avec la gloire. J'avais, c'était donc pas dans mon. J'avais pas ce mot gloire à l'époque. Mais. Je pensais que la lourdeur de cette gloire allait m'écraser, que j'allais mourir. Et cette gloire est venue encore, et au lieu de mourir, j'ai explosé. J'ai explosé. Et quelque chose, je pense que j'ai vécu une grande délivrance. J'ai explosé. Et j'étais libre. J'étais libre pour être vrai. Et les gens, ils étaient, ils savaient pas que dire. Ils savaient pas s'ils devaient être heureux ou s'ils devaient veiller. Ils devaient veiller quand même, c'est l'église anglicane, ils n'ont jamais vu ça. Et donc ils ont dit, oh, Dieu est là, vous pouvez partir. Et donc je pars, je suis dans la rue, je suis à Finchley, à Londres. Et j'ai dit, mais quelque chose se passe, j'aimais les gens. J'avais un amour pour toutes ces anonymes. Les gens dans la foule, les gens qui m'ont énervé normalement, la foule. Mais et là, c'était, j'avais envie d'embrasser les gens. Je devais me retenir pour le faire. Hein. Je devais me retenir pour ne pas embrasser tous les passants et de dire, voilà, je ne savais pas même qu'est-ce que j'allais leur dire. Je vous aime. Parce que je n'avais pas tout le langage chrétien à l'époque. Je ne savais pas que dire. Je connaissais un peu l'évangile. Je découvrais par ma Bible Gédéon. Et oh là 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 là, ça a transformé ma vie. Je ne vais pas raconter tout ça après, mais il y a 39 ans, aujourd'hui, il y a 39 ans aujourd'hui, un dimanche matin, Dieu bouleversait ma vie. Quelquefois, je dis, mais Seigneur, est-ce que je t'ai rendu assez pour ce que tu m'as donné? Ce moment-là, quel moment privilégié. Mais je dis ça souvent à ma femme, je dis, est-ce que tu penses en 39 ans, on a... Tout ce que j'ai reçu, est-ce que j'ai assez donné à Dieu en retour? Bon, je sais qu'on a, il ne demande rien en retour, mais quand on est rempli de l'Esprit, on a tellement envie de lui donner quelque chose. On a tellement envie d'être utile pour lui, de partager l'amour de Jésus, de parler de Jésus aux gens. Parce que Jésus m'avait transformé, m'avait rempli de, je ne sais pas, c'est plus que juste paix, c'est de réalité. Il m'a rendu un homme vrai. Il m'a donné sa vérité. Et voilà, ça fait 39 ans que je vis ça. Et donc, je dis, je veux fêter ça avec vous. Hein. Et je pense que dans les moments de louange, j'ai senti le moment de l'onction de Dieu. C'est ça qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Et donc, je prie que dans la parole ce matin, que Dieu nous rencontre. J'ai choisi Romains 8. Hein. Donc, je vais vous donner 7 choses de Romains 8. Et après, je vais donner la main, comme Didier il m'a donné ça, la main, comme ça, j'aime bien faire des prédications sur la main. Je suis en train d'écrire un livre, haut les mains. Et donc, c'est sûr, c'est des enseignements basés sur la main. Et donc, Romains 8, vous connaissez bien Romains 8. Et donc, je ne vais pas faire verset par verset, mais ça commence Il faut marcher par l'esprit. Alléluia. Tu sais, l'homme, on n'était pas fait pour être uniquement matériel. Notre identité, c'est une identité spirituelle. Tu es un être spirituel et tu as un peu de glaise autour de toi, un peu de poussière autour de toi. Mais l'important n'est pas de manger, de boire et de faire toutes ces choses selon la chair, mais c'est d'avoir une vie spirituelle. C'est normal d'être spirituel et c'est anormal de ne pas être spirituel. Mais nous, on a vécu ce que les théologiens disent, une inversion ontologique. Ça veut dire la réalité a été inversée. La réalité a été inversée. Et maintenant, si tu es spirituel et tu parles de Dieu et tu vis dans la pureté et la sainteté, oh, qu'est-ce qu'il a ? Il est bizarre. Mais ce n'est pas moi qui est bizarre. C'est de vivre selon la chair sans Dieu qui est bizarre. Et d'être dominé par des petites microbes de péché et des trucs qui ne valent rien. D'être dominé par l'argent et les idoles et des soucis et des craintes, ça c'est anormal. Nous on est appelés à régner, être remplis du Saint-Esprit. Et la vie normale, c'est d'être un être spirituel, d'être dirigé par le Saint-Esprit dans tout l'amour et toute la sainteté. Première chose, marcher par l'Esprit. Et bien sûr, quand tu marches par l'Esprit, la deuxième chose, verset 11, tu as la vie. Tu as la vie, tu as la vraie vie, tu as cette vie spirituelle. 11, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est ma réalité. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ incarné, même plus, Jésus dans toute sa vérité cosmique et infinie, habite en moi. Bien sûr, il est très réduit dans mon petit corps pour le moment, mais il donne la vie. Et si tu es malade ce matin, laisse le Saint-Esprit te guérir. Parce qu'il y a plus d'autorité dans ta vie spirituelle que dans la chair. Et c'est ça la clé de la guérison aussi. C'est de dire, voilà, celui qui habite en moi, c'est, il donne la vie maintenant à mon corps mortel. Il donne la vie maintenant. Il donne la vie à ma pression artérielle. Il donne la vie à mon nez qui coule peut-être au moins. Il peut donner la vie à ce mal de dos. Il donne la vie. Il donne la vie. Hein? Alors, la première chose, c'était marcher par l'esprit. Hein? Je vais lire quand même le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 1. Et après, deuxième, il donne la vie. Troisième chose, il nous donne une vraie relation. Il nous donne une vraie relation. Et quelle relation ? Il guérit. Vous savez, tous les gens qui disent « Ah, oh, mon père, c'était dur. Avec mon père, hein, il était absent. Il était violent. Blablabla. » Peut-être qu'il était gentil aussi. Mais maintenant, 8:15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Hein, » on n'est pas appelé à être encore dans la crainte. « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous donne une relation avec le Papa. Et quand tu imagines, tu sais, la sécurité qu'un enfant a autour de son Papa dans ses bras d'amour. Et même quand moi j'ai 62 ans, hein, j'ai des cheveux gris, mais j'ai envie d'être tout près de mon Papa. 4 heures du mat, quand je me réveille. Ah, Père, Abba, Abba. Et c'est ce mot hébraïque, tout le monde connaît ça, mais qui est le mot pour l'intimité. C'est pas le mot Père, c'est Daddy, Papa. C'est Papi, c'est Papa. Ah, c'est bien, ça nous guérit. Tu sais, on dit toujours, les psychologues, c'est la relation avec le Père qui est tellement importante parce que ça nous définit. Et quelquefois, on a été tellement mal définis. On a été tellement mal défini et on a dit que cette mauvaise définition, cette définition mensongère est nous, mais ce n'est pas vous. La vérité, c'est que le Papa Céleste vous aime. Et ça, c'est la vérité pour l'humanité. Ça, c'est notre évangile aussi. Et ça, c'est la prière que Dieu a dit, mais tous les chrétiens vont dire « Papa, notre Père, Abba. Papa, Papa, notre Père. » Et quand tu sais, moi je vois combien j'aime ma fille, combien je m'occupe d'elle, combien j'ai des soucis pour elle quand ça ne va pas. Combien plus, Père Céleste nous aime. Le Père Céleste nous aime. Et donc la troisième chose, voilà, il nous donne une relation de vérité. Une relation primordiale avec le Père Céleste. Et après, les gens disent, oh, mais oh, tu vis dans le ciel, c'est positif, machin, mais allez, pieds sur terre, la vie est dure. Quand même, on a le Covid, on a le truc, on est isolé, on a... Ah, je râle, c'est pas bon. D'accord, mais allez, Romains 8, hein, une réponse pour tout. Donc, la quatrième chose, c'est vrai, il y a les tribulations dans le monde. Il y a les souffrances. Et la vie est faite de tribulations. D'accord ? Si tu n'as pas encore rencontré la tribulation, sache que ça vous attend. Je ne vais pas juste dire, oh, c'est super, Jésus, tu vas baigner dans une vie. Non, tu vas entrer dans une bataille. Le Saint-Esprit va vous conduire aussi. Et même les tribulations, ça va vous faire encore plus mal. Moi, je suis attristé de voir les tribulations, la violence, l'impureté dans le monde, les mensonges. Ah ! C'est une tribulation, ton propre péché. Moi, j'essaie toute ma vie de ne pas pécher. Hein. Tu vois, chaque jour de ma vie, c'est... mais j'ai horreur du péché. Si je pêche, ça me fait tellement mal. C'est la plus grande tribulation que tu peux me faire. Sans doute, j'ignore beaucoup de choses que je fais. Mais quand je suis conscient de quelque chose... Et après, les tribulations, on est victime. Les gens, ils n'aiment pas. Quand toi, tu es extraordinaire, quand toi, tu retrouves la normalité d'être spirituel... Ah, les gens qui vivent selon la chair, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, ils vous persécutent. Parce qu'eux, ils nourrissent leur chair tout le temps. On aime bien boire un petit coup, c'est agréable. Oui, mais quand tu bois un petit, mais eux, ils boivent un grand coup, quelquefois. C'est encore un mensonge, boire un petit coup, c'est jamais un petit coup, c'est un grand coup. Hein? Et quand tu bois un petit coup, mais pas un grand coup, les gens, ils vous persécutent. Et avec ce que vous regardez, on est différent. Et on a des mœurs différentes. Pas parce que c'est un devoir, parce qu'on est sclérosé. Non, parce qu'on est libre de choisir la beauté. Parce qu'on est libre de choisir la pureté. Je suis libre de bien manger. Et je suis libre de remplir mon corps et mon esprit avec de bonnes choses. Et donc voilà, il y a des tribulations quand même. Verset 18. Hein, il dit les souffrances du temps présent. D'accord ? Je ne sais pas quelles sont les souffrances de votre temps présent. C'est comme Sylvain dans la louange, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous lance un défi aujourd'hui ? Je ne suis pas ignorant, il y a des souffrances autour de nous, dans chaque vie. Il y a un tas de souffrances, ça fait partie de la vie. Mais c'est comment nous allons gérer les souffrances. C'est avant de parler de souffrances, il dit marchez par l'esprit, allez, que l'esprit vous donne la vie. Que vous avez une relation avec le Père. Maintenant, on parle souffrance. On est armé. On n'arrive pas comme un non-croyant. Les souffrances. Bon, là, il va fuir, il va avoir peur. On n'a pas une solution. Sauf de croiser les doigts. Toucher le bois. Si c'est vraiment le bois de la croix avec foi, peut-être, mais c'est pas ça. C'est la superstition. On a une relation, nous, pas une superstition. Et après, là, il dit, j'estime, verset 18. Et écoutez bien, parce que j'ai eu ça un peu pour ce temps, je commençais à râler, le temps fait un peu long, avec le Covid et tout ça, et j'ai reçu ça. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée. Il n'y a pas de commune mesure entre une année de Covid, entre deux années, et la gloire à venir qui sera. Et moi, j'essaie de ne pas trop me figer, de me fixer sur toutes ces informations qui ne parlent de ce temps présent. Je ne suis pas dans l'illusion non plus. Ce n'est pas une pensée positive, c'est juste un changement de regard. Et j'essaie de vivre dans cette gloire à venir, de rester dans l'espérance. De rester dans l'espérance. Et vous savez, un peu plus tôt, en Romains 5, il parle aussi, Paul, de difficultés. Et il parle des tribulations. Il dit ceci, bien plus, nous glorifions même dans les tribulations, sachant, d'accord, nous nous glorifions dans la tribulation. Oh! Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis un être spirituel. On ne va jamais entendre ça sur CNews ou BFM ou TF1 ou Antenne. Glorifions-nous dans ce temps de privation, dans ces tribulations. Personne ne va dire ça. Personne. On va donner notre solution humaniste, matérielle. Et je ne suis pas bon, je vis les pieds sur terre quand même. Hein. Mais j'ai une réalité plus profonde. J'ai aussi une vérité plus profonde qui dit que cette tribulation peut être active. Et il dit ici, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit quelque chose. Ah. Ça produit quoi? Les râleries, les découragements, les fuites, les blâmes. Bon, si tu n'es pas spirituel, oui. Mais qu'est-ce que ça va produire en nous? Ça peut, je ne dis pas que ça, c'est facile, hein. Là on va dans la réalité de marcher par l'esprit. Ça produit en nous la persévérance. Persévérant. Merci, source de vie. Chaque dimanche, on persévère, on persévère, on persévère. Dans les relations difficiles, on persévère, on persévère. On se lève le matin, c'est dur, mais on persévère. On ne fuit pas dans une relation qui est difficile, avec des personnes difficiles. On persévère. On n'abandonne pas notre amour. On persévère. Et la persévérance produit quelque chose, tu vois. La persévérance produit une fidélité éprouvée. Dieu va dire, ah, je vais voir ce qui est là. On est éprouvé. Oui, on est éprouvé. L'Église est éprouvée. Et la fidélité éprouvée produit quelque chose. L'espérance, frères et sœurs. L'espérance. Et après... Magnifique. Oh, l'espérance ne trompe pas. Oh, l'espérance ne trompe pas. Ça ne va pas nous décevoir. Il y a beaucoup de choses qui nous déçoivent dans la vie, qui nous trompent. Mais l'espérance, cette espérance incarnée en Jésus, cette espérance incarnée dans le Saint-Esprit, dans mon cœur, cette espérance vit en moi, l'espérance de la gloire, Christ Jésus. Cette espérance n'est pas juste une pensée positive. C'est une incarnation réelle, c'est une présence divine dans mon cœur. La fidélité éprouvée produit l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci Seigneur. Merci Seigneur que cette espérance nous catapulte vers l'amour et l'accueil du Saint-Esprit, même dans les moments les plus difficiles. Et les premiers chrétiens, persécutés par les Romains, vraiment torturés quelquefois, avaient cette espérance dans leur cœur. Et la tribulation produisait en eux cette plénitude de gloire et du Saint-Esprit. Et donc, peut-être tout ce que nous vivons maintenant n'est qu'une préparation pour de pires tribulations qui vont arriver sur la terre. Je ne suis pas fataliste. C'est à moi de changer et de faire tout ce que je peux pour faire une meilleure monde. Mais je ne suis pas dupe non plus. Je ne suis pas dupe. On vit avec, dans ce monde en criant vers Dieu. Mais mon espérance reste intacte. Et cette espérance ne va pas me décevoir. Parce que ça fait appel au Saint-Esprit et à la gloire. Et donc je vous encourage dans les tribulations à tenir ferme et d'utiliser la tribulation à forger votre caractère et d'aller vers l'espérance. C'est pas un message que tu entendras sur BFM ou Antenne 2, mais à source de vie ce matin. Alléluia. Et après, allez, Romains 8. C'était quoi? C'était le quatrième, le cinquième. Il y a l'intercession. Il y a la création qui prie, qui intercède avec des douleurs de l'enfantement. Et il y a le Saint-Esprit qui intercède en nous. Qu'est-ce que je peux faire? Et verset 26. Mais l'Esprit, vers la fin, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et les saints, c'est nous. En faveur de Robert Yves, Saint Robert, qu'on fête pas sa naissance, mais son baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia, merci Seigneur. Il intercède pour chacun de vous, Dieu. Le Saint-Esprit est là, en vous, en train de prier. Et donc, nous, soyons sensibles. Quand vous sentez ces soupirs, peut-être c'est juste pour vous, mais priez ça pour vous-même, parce que ça va vous aider. L'intercession est aussi là pour nous aider à traverser les tribulations. L'intercession, la prière. Tu sais, de ne pas tomber dans le piège de cette inversion ontologique, où il n'y a pas la prière, où il n'y a pas des soupirs inexprimables, mais de vivre ta réalité spirituelle, avec tout ce que le Saint-Esprit nous donne. Et après, voilà, ça c'était le cinquième, non ? Ah, le cinquième. Et donc le sixième. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Coopération. Il y a une coopération, une synergie dans toutes les circonstances. Et donc, ce n'est pas un fatalisme de croire à la synergie, que toute chose coopère ensemble. De rester dans l'espérance, même quand ça va mal. Même quand ça va mal. Quand ça va mal, et ce n'est pas ta faute. Quand ce n'est pas à cause de ton péché que ça va mal. Quand ça va mal, juste comme ça, c'est une intercession. C'est quelque chose que Dieu fait. Il faut juste accueillir avec patience. Coopération. Si c'est ta faute, il faut se repentir. Il faut aussi résister l'ennemi, bien sûr. Moi, je n'accueille pas, je suis anti-tribulation, moi, anti-souffrance, mais quand ça arrive, je l'accueille. Et parce que je sais que toute chose coopère au bien, et je sais que j'aime Dieu. Et donc, voilà, ça c'est le dernier mot, ça va coopérer pour bien. Et la septième chose, tout ça, ça va travailler ensemble pour une destination, pour une destinée, la septième chose. Parce que, qu'est-ce que c'est ma destinée? Il m'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Hein, je suis une œuvre en progrès. Et donc là, ma destinée, toutes ces choses-là, c'est pour que je sois comme Jésus-Christ. Pour que je sois vraiment comme lui, son épouse, pour vivre éternellement avec lui. Et il me transforme à être comme lui. Il me transforme. Il nous rend semblable à Jésus. C'est incroyable ça. C'est incroyable, mais Jésus, ce n'était pas la vie en rose. Hein. Là, il y a une croix. Jésus, il était à sa hauteur à cause de cette croix. Pardonne-le, il a appris. Comment est-ce, même s'il était Dieu, il a appris le pardon par ce qu'il a souffert. C'est un mystère, ça. Dieu n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Mais il dit en hébreu, il a appris. Il était rendu à la perfection même, par son obéissance. Et nous aussi, on est sauvés, on est graciés. Mais il y a des souffrances qui nous enseignent à être partenaires avec Dieu. Parce que nous portons notre croix avec lui. Et c'est souvent une croix missionnaire, une croix d'espérance. Allez, je vais terminer, rapide. Parce qu'il y a le meilleur maintenant, il y a la main. D'accord. Et donc vous avez les sept choses, hein, je pense, plus ou moins. Et maintenant, la main. D'accord. Levez la main, on va finir avec ça. D'accord. Vous avez vos mains là. Et donc, like. Non, c'est la fin de Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Like. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Et là, c'est tout avec lui par grâce. Wow! Il m'a déjà donné le don de son fils Jésus. Comment ne pas me donner maintenant tout avec lui par grâce? Si ta vieille tante te lègue 20 millions d'euros, est-ce qu'elle va pas te donner aussi le chien avec? Si tu as envie d'un chien, tu peux avoir le chien. Et donc c'est, oh, je veux une voiture, je veux ça, mais c'est facile, allez, prenez-le, parce que le plus grand cadeau est déjà donné, tout avec lui par grâce. Aucune accusation. Aucune accusation. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Et nous avons la paix à cause de cette justification, la paix avec Dieu. On n'est plus ennemi, on est en paix. Justifié, qui accusera? Qui les condamnera? Aucune condamnation. On revient au début de Romain. Aucune condamnation. Pourquoi? Le Christ, Jésus est celui qui est mort. Mais moi, j'aimerais bien dire maintenant, très haut, et surtout, moi, j'aime bien mes frères catholiques. Si vous êtes catholiques, je vous aime. Mais je veux juste dire ceci, il est mort, d'accord? Mais bien plus, il est ressuscité, d'accord? Bien plus, il est ressuscité, et encore bien plus. Il est à la droite de Dieu, il a l'autorité, il règne, il est un roi avec un sceptre. Il règne, que ton règne vienne. Il ne peut pas juste... Mais il règne. C'est important la croix. C'est le fondement de toute la maison. Tout tombe sans la croix. Mais c'est pas... On vit pas confortablement uniquement sur le fondement. Il faut construire les murs, il faut mettre le chauffage central, il faut mettre la cuisine, il faut prendre une douche de temps en temps. Et donc, vivre avec la plénitude du Saint-Esprit, avec un Dieu qui règne bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Troisième intercession, la création, le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même. Merci, une intercession trinitaire, Dieu le Créateur, le Saint-Esprit et le Fils, ensemble, qui intercèdent pour nous. Et Jésus intercède en connaissance de cause, parce qu'il est devenu un homme, il a partagé, mais lui, il n'a pas subi cette inversion ontologique. Lui, il est resté comme nous devons être, un être en chair, oui, mais profondément spirituel, marchant par l'esprit chaque jour. Prenons exemple de Jésus qui intercède pour nous. Et donc voilà, aucune condamnation. Mais maintenant, aucune séparation. Aucune séparation là où il y a l'alliance d'amour. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera? Et après, il essaie, mais est-ce que le Covid va vous séparer? Est-ce que la distanciation, est-ce que le masque va vous séparer? Peut-être on est séparés les uns des autres. Mais, il dit, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, ou l'épée. Et après, verset 20-38, il dit qu'il parle d'autre chose, la mort, la vie, les anges, les dominations, le présent, l'avenir, les puissances, les êtres dans nous. Tu connais les êtres dans nous? Peut-être les politiciens. Est-ce que vous allez tellement râler contre les politiciens que vous serez séparés de Dieu? Oh, peut-être les êtres en bas, les gens tellement corrompus et bas et vils. Ça va tellement vous décourager de vivre avec eux qu'ils vont vous séparer de l'amour de Dieu. Non, 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 non. Rien, rien, rien. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Il dit, il n'y a pas une créature, il n'y a pas une personne qui vous énerve assez pour vous séparer de l'amour de Dieu. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Et donc même si, là, ça ne va pas me séparer de l'amour de Dieu. Ça ne va pas me séparer de l'amour de Dieu, parce que je suis un être spirituel. Matériellement, comme un être matériel, je ne peux pas être séparé. Et c'est vrai, c'est une tribulation. Je ne peux pas minimiser ça. Et même la mort. Oh, l'hôpital, tu seras entubé, tu seras fini, mort, fini. Je ne minimise pas la mort, c'est terrible, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Bien plus, Christ est ressuscité. Il est mort, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que je suis un être spirituel. Donc je n'ai pas peur, moi j'aurai un corps spirituel après. Je ne méprise pas toute cette réalité de mes muscles et de ma respiration, c'est un cadeau de Dieu. Mais la mort n'aura pas... Même la mort ne peut pas nous séparer. Et donc, rien ne pourra nous séparer de l'amour. C'est ça. De l'amour, c'est ça qui nous manque. On est séparés de l'amour, des relations. Mais rien ne pourra nous séparer de l'amour C'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes petits-enfants. Ça me fait mal, je ne veux pas minimiser cette réalité de ne pas embrasser ma petite fille ou mon petit garçon, là, comme ça. Ouh, papy. Mais ça, c'est mon côté matériel. Si c'est que ça que j'ai. Et c'est vrai que ça me fait, c'est une tribulation pour moi, mais je persévère. Et j'ai de l'espérance que je les verrai après. Et il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Je dis, je ne minimise pas la tribulation. Mais soyons, mettons les choses, parce que BFM ne va pas vous dire ça. Ils vont dire, oh, Mathieu. Mais non, rien ne pourra me séparer. Demain, je ne suis pas séparé de l'amour. Dieu va me donner un bisou. Eh bien, mais Laetitia te donner des bisous, mais... Robert. Et mon âme et mon esprit est couvert de bisous en attendant le meilleur jour. Parce que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Et pour terminer, petit doigt. Hein, tac, tac, tac. C'est les Anglais quand ils boivent le tasse de thé. Là. Faut pas faire ça en Chine. Hein. Heureusement, les Coréens ne sont pas ici ce matin. Mais bon. Tu fais ça? Et ce petit doigt, là, c'est aucune séparation. L'alliance. Hein, rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Hein. Et là, dans toutes ces choses, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Et le plus petit est plus que vainqueur. Et le plus petit parmi vous ce matin, on est plus que vainqueur, pas par nos muscles, mais parce que Dieu nous aime. Et plus que vainqueur, en grec, ça veut dire hyper Nike. Hyper Nike. Et donc, c'est qu'il y a des bottes là que tu peux porter, Nike, et même des t-shirts. Mais, et donc, mettez vos Nike cette semaine. De dire, voilà, même si vous n'avez pas des Nike, vous mettez, vous regardez votre petit. Je sais que vous ne faites pas ça, même moi je ne fais pas ça. Mais bon, j'ai pas un peu. C'est la famille royale qui fait ça. Et donc, en tant qu'enfant du roi, on a le droit de lever le petit doigt et de dire, oh, quand je prends mon café le matin, oh, je suis plus que vainqueur. Et peut-être cette semaine, au lieu de faire d'autres signes, à la télé ou quand vous êtes énervé, je ne sais pas, vous levez le petit doigt et vous dites, voilà, je suis plus que vainqueur. Je suis petit, j'ai besoin de la grâce. Mais je suis fantastité pour quelqu'un qui est plus que vainqueur. Et donc voilà. Dieu nous aime, la présence de Dieu, si Dieu est pour nous, aucune accusation, aucune condamnation, aucune séparation, et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Seigneur, merci. Alléluia.